Un dernier exemple, lui aussi repose au justificateur de Cronenbourg. Un dernier exemple, c'est dans le domaine de l'histoire de l'art, c'est Polacek, Ernst Polacek, qui enseigne l'histoire de l'art, qui est en même temps directeur du musée des arts déco, le Hohenlohe Museum, qui se trouve à l'emplacement du musée historique, directeur ensuite du musée des beaux-arts, et qui publiera pas moins une cinquantaine d'articles sur l'art en Alsace. Il se liera d'amitié avec Elie Knapp, qui est la fille également d'un très grand professeur, très grand universitaire allemand, un professeur de lettres. Elie Knapp épousera 1808 ou 1809 à Strasbourg Théo Heuss, qui a également fait des études de droit à l'université de Strasbourg. Théo Heuss est le premier président de la République fédérale allemande de 49 à 56. Bon, je vous donne juste les noms encore de deux grands noms pour l'histoire médiévale. Breslau, c'est le beau-père d'Albert Schweitzer, et dans le domaine de l'égyptologie, Wilhelm Spiegelberg, c'est à lui que nous devons l'Institut d'égyptologie, c'est lui le fondateur de cet institut, et ensuite de très très grands noms, Montet, Leclan, ainsi que français, et il nous a laissé un trésor que très peu de Strasbourgeois connaissent, c'est qu'il a créé dans le sous-sol du palais universitaire, du collège des Nobles, un petit musée d'égyptologie qui n'est malheureusement pas ouvert au public. Il existe encore et qu'on peut visiter en France. Alors, je termine en posant la question de l'intégration des Juifs dans la société strasbourgeoise. C'est un problème délicat puisqu'il touche à la fois les rapports avec la société allemande. Je l'ai dit au départ, les choses ne vont pas de soi entre juifs immigrés et juifs alsaciens, et les rapports également à la société alsacienne qui, de façon générale, voit d'un mauvais œil l'arrivée de ces cohortes d'immigrés. Alors, je vais vous dire un mot sur vous montrer, pour essayer de mesurer l'importance de cette intégration, les mariages entre les Alsaciens et les Alsaciens, et que les Alsaciens, parce que la plupart des mariages concernent plutôt un arrivant, un immigré homme et une Alsacienne. Dans les deux tiers, ça fait dans ce sens-là. Un immigré allemand, Alsace, qui épouse une Alsacienne. L'entrée d'un juif allemand dans une famille alsacienne a un sens particulier dans la mesure où les juifs alsaciens ont été, après 1870, à la pointe du mouvement de protestation. Ce sont eux qui ont été sans doute les plus acharnés, les plus virulents et les plus également ceux qui ont réitéré ces protestations le plus longuement dans le temps. Je vous parlais tout à l'heure du phénomène de l'option. Donc ces Alsaciens, pour ne pas devenir allemands, ont quitté l'Alsace avant le 1er octobre 1972. Et on trouve dans ces partants, dans ces optants, une proportion extrêmement importante de juifs qui se sentaient extrêmement bien intégrés dans la société française, qui avaient trouvé tout à fait leur marque dans la société de l'époque, qui étaient les admirateurs de la Révolution, le régime de la Révolution des émancipés, qui craignaient le régime allemand et qui, devant ce saut dans l'inconnu, ont préféré partir. Donc il y a eu beaucoup de départs des juifs au début. Il y en a eu tout au long du Reichstag vers la France, et à partir de 1890, ils vont moins vers la France. Que l'image de la France est un petit peu ternie. Il y a les querelles autour de l'école, il y a ce qui a causé énormément de tort à l'image de la France, c'est le procès Dreyfus. Dreyfus communauté juive et les Alsaciens, énorme répercussion ici en Alsace. Et alors plutôt que de quitter l'Alsace pour la France, les Juifs ont préféré alors aller vers d'autres destinées, notamment vers l'Amérique de Russin, en raison de ce changement de concept. Alors les rapprochements ont lieu entre Juifs allemands et Juifs alsaciens. Alors qu'au départ, les rapports entre les deux communautés sont tendus. Je crois que Vicky Caron, qui a étudié la chose, parle même au départ, pour les 20 premières années, 1871 à 90, d'un gouffre entre les Juifs alsaciens, ce qui s'est passé, et puis ces nouveaux arrivants. Or, les autorités allemandes ont vraiment redoublé d'efforts pour que les arrivants, les Juifs arrivants, soient bien intégrés. Je vous donne un certain nombre d'éléments qui le montrent. Il n'y a jamais eu de gros problèmes. Là, je me fie à ce qu'écrit Caron en ce qui concerne la confirmation des nominations au consistoire du Bas-Rhin. Donc on peut voir un agrément que ça relève encore aujourd'hui du ministère des députés. Les Allemands ont augmenté, ils l'ont fait pour toutes les religions, ils l'ont fait également pour les officiers du culte juif, les salaires, un des officiers du culte. Les Allemands ont permis, le système électoral, l'élection municipale de Strasbourg, déjà à l'époque, c'est très compliqué. Alors à Strasbourg, on applique un système où les postes sont distribués, on respecte l'importance numérique des confessions catholiques, protestantes, juives. Et en fonction de cette répartition, pendant tout le Reichstag, les juifs ont eu trois élus juifs au conseil municipal. Jean Dalbroff l'a écrit dans son livre, il y a une aide assez considérable de la municipalité pour construire la grande synagogue. Un personnage, un juif, les Alsaciens, ça montre quand même que les Allemands ont tout fait pour les intégrer correctement, Gustave Lévy, est devenu président du tribunal régional de Strasbourg en 1907, puis est devenu président de la cour d'appel de Colmar. Donc tout ça pour montrer qu'on a favorisé l'intégration de l'ensemble des juifs présents en Alsace. Maintenant, il faut dire qu'en retour, les juifs ont également tout fait, disons, pour être bien acceptés, et qu'ils se sont montrés très généreux vis-à-vis de la cité. Et là, je donne un exemple, c'est un des Jacobi, c'est Salomon Jacobi, qui est justement un de ces juifs allemands qui font partie du conseil municipal. Il fera partie du conseil municipal entre 1886 et 1905, donc 20 ans de présence au conseil municipal, et il fait, durant son mandat, un legs de 20 000 marques, quand même une somme assez considérable, pour la création d'une folle bibliothèque, d'une bibliothèque populaire. Une bibliothèque populaire qui sera ouverte dans les locaux de la gare, de la nouvelle gare, à une durée en 1986. Cette somme de 20 000 marques a permis l'achat de 60 000 livres avant la guerre. Donc vous avez la bibliothèque universitaire qui démarre avec Nilo, qui aura 1 million d'ouvrages en 1914, la bibliothèque pour les étudiants universitaires, mais pour le tout Strasbourg, vous avez cette bibliothèque populaire à 60 000 volumes, bibliothèque qui va rencontrer un très très grand succès. Voilà un certain nombre d'exemples pour vous montrer que du côté des autorités allemandes, il y a eu une véritable volonté de bien accueillir et de bien intégrer dans la société alsacienne ces arrivants juifs. Si on faisait la comparaison de ce qui se fait et de ce qui se passe dans les autres États allemands de l'époque, je ne dirais pas la même chose, je serais obligé de nuancer très sérieusement mon propos dans la mesure. mesure où il y a eu deux antisémitismes dans les autres États allemands, notamment à Berlin, et qu'un grand universitaire comme Harry Bresson vient à Strasbourg en 1890, alors qu'il est, il est reconnu par Lucien comme un très grand éduiste, mais il n'arrive pas à la Humboldt Université de Berlin de devenir professeur titulaire, tout simplement parce qu'il est juif, et parce qu'il y a, à la fin du siècle, un relent d'antisémitisme qui est relayé par des journalistes, par un certain nombre d'écrits. Il arrive à Strasbourg et lui dit l'ambiance est tout à fait différente, et il obtient le poste tout à fait honorifique de recteur. Il est élu par ses pairs recteur de l'université. Bon, le recteur n'a pas les fonctions aujourd'hui, le recteur a surtout des fonctions honorifiques, mais il est reconnu par ses pairs, et à deux reprises, il est recteur. Alors il aurait aimé, je vous montre alors ce que je disais, il avait lancé une très très grande collection sur les sources de l'histoire, les sources médiévales de l'histoire allemande. Il a travaillé pendant 50 ans ça, il aurait aimé terminer sa carrière en étant nommé responsable de ce grand monument, monument de recherche. Et d'autres universitaires allemands ont voté contre lui. Vous voyez, faciliter l'intégration des Juifs en Alsace, difficulté et maintien d'un antisémitisme propagé par la presse, propagé par un certain nombre d'intellectuels, souvent protestants, dans les autres États allemands. Donc, ces Juifs dont je vous ai parlé, notamment les Juifs alsaciens, ont pris une place imminente dans les transformations de Strasbourg sous leur estade, hein, par leur rapport technologique, par la création donc, de ces deux grandes entreprises industrielles, de même que professeurs et universitaires ont concouru au rayonnement de l'université impériale. Malgré les frictions, surtout durant la période initiale, les tensions avec les Juifs alsaciens ont été plutôt en s'atténuant par le fait l'immigration des éléments les plus patriotes et l'effort également soutenu et continu de l'administration allemande. Par ricochet, l'immigration des Juifs à Deutsch a bouleversé puis a altéré de façon significative le caractère culturel et religieux de la communauté juive à Deutsch. Merci.